en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci, Madame le Président. J'ai préparé une sorte de guidane comportant certaines citations importantes que je pourrais ne pas faire. Donc, alors ceux qui ne l'ont pas encore reçu sont priés de le recevoir et de le faire passer. Bien, Madame le Président. Monsieur le secrétaire perpétuel, chers confrères et amis, avec le sujet que je remercie Chantal Delsol de m'avoir confié, je me trouve devant une opinion commune sur l'islam, à savoir qu'il ignore une distinction que nous nous flattons d'opérer entre le politique et le religieux. Pour ne citer que de grands esprits, c'est ce que dit Guizot. C'est la première citation que je n'ai pas besoin de lire. Cette indifférenciation est sentie la plupart du temps comme un défaut contre lequel on est prompt à brandir la déclaration de Jésus sur Dieu et César. Elle est pourtant parfois perçue comme une qualité que l'on fait valoir contre la schizophrénie du chrétien citoyen de deux cités. Ainsi Rousseau, pour lequel Mahomet eut des vues très saines, à la différence de Jésus qui a opéré cette funeste division. C'est le cas également d'un politique réel qui avait lu Rousseau, à savoir Napoléon, dans un propos du 11 février 1804 rapporté par Pellet de la Lozère et qui est la troisième citation figurant sur ma feuille de papier. Il faudrait aussi, parmi ceux qui regrettent que l'islam n'ait pas supplanté le christianisme, citer Nietzsche dans l'Antéchrist, voire, à un autre niveau, invoquer certains propos de table de Hitler. Il y a du vrai là-dedans, mais il y a aussi beaucoup de vagues, car les deux notions, religion et politique, sont trompeuses. Je vais donc essayer de les éclairer. En ce qui concerne la notion de religion, eh bien, marqué par la vision chrétienne des choses, nous réduisons le religieux à la foi, aux dogmes qui en formulent le contenu, et aux pratiques pieuses comme la prière, les sacrifices, le jeûne, le pèlerinage, en excluant ainsi les normes de l'agir. Notre incapacité à saisir l'islam est une conséquence directe de la révolution chrétienne, consistant à ne garder du système juif de commandement que le décalogue. Et nous sommes, même le bouffeur de curé le plus enragé, encore trop chrétiens, en ce sens que nous appliquons à l'islam des schémas de pensée d'origine chrétienne. Le christianisme est la religion absolue. Le mot est de Hegel, dès la période de Iéna, et plus systématiquement dans ses cours de philosophie de la religion. Ici, je le détourne de son sens, mais en retournant à l'étymologie, absolue voulant dire délié, ce qui a l'avantage de priver l'expression de toute connotation valorisante pour lui réserver une fonction exclusivement descriptive. Le christianisme est la religion qui n'est qu'une religion et rien d'autre. Le judaïsme est une religion et un peuple. Le bouddhisme est une religion et une sagesse. L'islam est une religion et une loi. Le plus fort est que nous avons le culot de dire aux musulmans « L'islam comme religion ne nous gêne pas, vous pouvez jeûner, prier, aller à la Mecque si cela vous chante, en revanche, nous n'accepterons pas la charia, dont, entre autres, les règles vestimentaires, comme le voile, les règles de l'abattage rituel, etc. Nous demandons aux musulmans de renoncer à ce qui, pour eux, est partie intégrante de leur religion, voire à ce qui en constitue l'essentiel. Le vrai problème, j'aurai à l'expliquer, est celui de l'origine divine des normes. Il est plus juridique que politique. Politique, autre mot ambigu, la politique est un cas particulier de la philosophie pratique comme art du gouvernement. Je prends ici la définition du politique telle que la donnent les philosophes musulmans du Moyen-Âge dans le sillage d'Aristote. Il distingue trois niveaux de l'art de gouverner, selon qu'il porte sur l'individu, la famille ou la cité. Il est alors, cet art de gouverner, soit éthique, soit économique, au sens ancien du terme, soit politique, la politique étant le gouvernement de la cité. Le Coran et le Hadith contiennent beaucoup de choses sur la conduite de l'individu, isolé et dans sa famille. Donc beaucoup d'éthique et d'économique, si vous voulez. On y trouve en revanche peu de choses sur la politique proprement dite. Un verset, dit habituellement « verset des émirs », recommande, il est sur votre feuille, d'obéir à Allah, à l'envoyé et à ceux qui ont l'autorité. Mais c'est sans dire comment ceux-ci doivent être choisis et qui ils sont. Il faut se livrer à 1000 contorsions pour trouver dans les textes sacrés des indications sur le système politique optimal, surtout quand on cherche à y trouver de quoi se prononcer en faveur de la démocratie représentative. Mais on y arrive. Par exemple, en se fondant sur les récits selon lesquels Mahomet aurait parfois demandé l'avis de ses compagnons, voire accepté de se plier aux décisions d'un conseil. Y voir l'ancêtre d'un parlement est une malhonnêteté intellectuelle, mais elle part des meilleures intentions qui soient. L'idée de gouvernement implique en tout cas celle d'une direction à prendre. Or donc, vers quel but vaut-il tendre ? Par quel chemin convient-il de s'en approcher ? Où trouver cette voie droite dont parle la toute première sourate ? Eh bien, cette voie droite est celle qu'indique la charia. Le terme désigne justement un chemin, et jadis, selon les étymologistes, le chemin qui, dans le désert, mène à un point d'eau. Comme métaphore, il signifie la démarche à suivre, équivalent de l'hébreu halakha. La notion fonctionne souvent comme un épouvantail. On désamorce la frayeur des Occidentaux en faisant valoir qu'elle recouvre une pluralité de systèmes juridiques. Ainsi, l'islam sunnite connaît quatre écoles, parfois appelées rites. Il n'y a donc rien qu'on pourrait appeler la charia. On rappelle aussi que ces systèmes sont susceptibles d'évoluer. C'est exact. Même si en fait le droit islamique est ankylosé depuis plusieurs siècles, la réouverture des portes de l'ijtihad, de l'effort personnel pour trouver la bonne solution à un problème de conduite, disons, cette réouverture demandée par tant de monde n'est pas exclue en principe. Reste que, derrière la pluralité des systèmes juridiques, une idée demeure que l'on peut exprimer par l'infinitif, qui est à la racine du mot charia, à savoir, bon, char, le fait que Dieu indique à l'homme la valeur juridico-morale de certains comportements, voire, dans l'idéal, de tous les comportements. Et autre idée fondamentale, intimement liée à celle-ci, Dieu est le seul législateur légitime, contre lequel aucune décision humaine ne saurait faire le poids. Et sur ce point, l'islam ne peut en rabattre sans cesser d'être lui-même. Si certaines normes viennent de Dieu, et directement, la seule tâche concevable est de les appliquer. L'idée d'interprétation n'a pas le même sens qu'en Occident gréco-judéo-chrétien, ou, si l'on préfère, athéno-jérusalémite. Là, le modèle est celui du jugement d'équité, epieikeia, tel que le définissait déjà Aristote. Lorsque l'application mécanique d'un texte mènerait à des injustices révoltantes, l'équité remonte de la lettre à l'esprit, en l'occurrence, à l'intention du législateur. Mais là où le législateur est Dieu, qui est éternel et omniscient, il ne peut être question de supposer que celui-ci n'aurait pas prévu d'avance la totalité des cas. La seule latitude qui reste est celle de l'interprétation des mots. Ainsi, le commandement de se voiler ne peut être compris comme celui plus général de se vêtir décemment selon les climats et les mœurs. L'interpréter consistera uniquement à s'interroger sur la longueur ou sur l'opacité du voile. La meilleure attestation du caractère juridique de l'islam se trouve, me semble-t-il, dans les implications d'un verset fort anodin, mais qui contient une caractérisation qui me semble très révélatrice d'un concept très sublime, celui du bien. Ce verset figure dans une sourate traditionnellement classée parmi celles descendues, c'est le terme technique, à Médine, à l'époque donc où Mahomet, devenu chef d'une petite armée, dicte à ses partisans les règles selon lesquelles Dieu veut qu'ils se comportent. Allah donc est censé dire aux musulmans, c'est sur votre feuille, « Vous êtes la meilleure communauté qui ait surgi pour les hommes, vous commandez le bien, vous interdisez le mal, vous croyez en Dieu. » L'expression « commander le bien, interdire le mal » est au fondement d'un devoir central du musulman qui est d'intervenir soit par la main, soit par la parole et à tout le moins par la prière, là où il s'agit de faire respecter la justice et de réprimer son contraire. Je voudrais faire voir ici plutôt la bizarrerie de la formule, plus précisément celle du lien de causalité entre la dignité supérieure prêtée à la communauté musulmane et l'attitude qui en justifie la valorisation. On attendrait plutôt, en effet, vous êtes la meilleure communauté, vous faites le bien, vous évitez le mal, comme on le trouve dans les naïves et glorieuses tautologies bibliques. Mais ici, le bien n'est pas, ou il n'est pas seulement ce qui est accompli, mais ce qui est commandé par une autorité. Le mal, symétriquement, n'est pas seulement ce qui est évité, mais ce qui est interdit par une autorité. Ce bien n'est donc pas de nature morale, mais de nature juridique. Le but dernier de l'islam n'est donc pas la violence dont les médias sont remplis, mais ce que j'aimerais nommer tout simplement la force. J'aurais envie d'employer l'allemand Gewalt, qui peut certes signifier la violence, mais qui désigne aussi l'autorité légitime de l'État, Staatsgewalt. On pourrait aussi utiliser le mot de vigueur, au sens où une loi est en vigueur, mais au fond, certains usages du français force pourraient parfaitement convenir. C'est ainsi que j'ai intitulé, si je puis me permettre de me citer, le chapitre de mon bouquin « La loi de Dieu » qui traite de l'islam, « Force reste à la loi ». Il s'agit d'assurer la souveraineté de Dieu sur la communauté humaine. Et cette souveraineté ne passe pas par la voix de Dieu dans la conscience, mais bien par une parole très explicite, celle qui fut dictée à Mahomet et consignée dans le livre saint, accompagnée des déclarations du « beau modèle », c'est une expression par laquelle le Coran désigne Mahomet, à savoir le prophète. La violence n'est pas nécessaire, ni même souhaitable. Il est préférable d'éviter d'avoir à combattre, aussi bien pour des raisons morales que platement économiques. La situation idéale est celle où l'adversaire cède sans résistance et donc où l'on n'en vient pas aux mains. On se souvient du paradoxe de Clausewitz, selon lequel la guerre est toujours commencée par celui qui se défend. Et un État bien policé n'a de toute façon pas besoin de recourir à la violence. Le but des guerres de conquête qui marquent l'entrée de l'islam au 7e siècle sur la scène de l'histoire, le but des guerres de conquête, telles qu'elles sont interprétées par les théologiens postérieurs, nous ne savons pas trop ce qui s'est passé au 7e siècle, ce but n'est pas directement la conversion des populations soumises. C'est l'établissement d'un pouvoir islamique permettant la liberté pour la vraie religion de se montrer la meilleure. Contraindre à se convertir n'est tout simplement pas faisable. D'où le temps chanté, il n'y a pas de contraintes en religion. Vous avez le texte, mais tout le monde le connaît. Les règles réduisant les non-musulmans à un statut de sujet de seconde zone ont une fonction pédagogique. Les humiliations ont pour but de faire comprendre à ceux-ci qu'il est dans leur intérêt bien compris d'adopter la religion vraie. La terreur, si médiatisée de nos jours, n'a pas pour fonction de satisfaire un quelconque sadisme, même si les exécutants se recrutent parmi des gens dont la psychologie s'y prête. La vie de Mahomet contient des exemples de cas dans lesquels la terreur réelle ou possible, voire la seule détermination des adeptes, suffit à emporter la soumission. Ainsi de ce personnage qui dit à son frère qu'il le tuerait sans hésitation si le prophète lui en donnait l'ordre. Frappé par la qualité de cette religion, le frère se fait musulman. C'est la phrase que je cite, peut-être bien la dernière d'ailleurs. Le rôle d'un État islamique, donc le rôle d'une politique islamique, se comprend à partir de la tâche fondamentale qui consiste à donner force à une loi qui vient de Dieu. Le but de l'État n'est donc pas la paix entre les hommes, mais le service de Dieu. Dès le Coran, il existe un État, certes rudimentaire. On le voit dans la sourate la plus tardive, qui peut abroger le contenu normatif des autres qui la précèdent. Il s'agit d'un des versets qui précise l'emploi de l'aumône, une sorte d'impôt révolutionnaire, je crois que ça me semble plus proche de la réalité que ce que nous appelons l'aumône, bon, que nous faisons à mendiant dans le métro. Alors, je cite donc, vous avez le texte, « Les aumônes sont destinées aux pauvres et aux nécessiteux, à ceux qui sont chargés de recueillir les aumônes et de les répartir, à ceux dont les cœurs sont à rallier, donc ceux qu'il s'agit d'acheter, au rachat des captifs, à ceux qui sont chargés de dettes, à la lutte dans le chemin de Dieu et aux voyageurs. » Le voyageur en question, c'est le guerrier, n'est-ce pas ? C'est celui qui va dans le chemin de Dieu, le chemin de Dieu étant la guerre pour accroître le domaine pacifié de l'islam. On a donc le schéma d'une structure comportant des fonctionnaires, un service de propagande, une armée et même la sécurité sociale. Comment ne pas appeler cela un État, même si c'est un État évidemment incoatif ? L'idée d'un État neutre est impossible, car elle suppose l'existence en l'homme d'un lieu de neutralité. Cet État neutre supposerait en effet qu'il existe en l'homme un terrain neutre situé à un niveau plus fondamental que la diversité des options religieuses. Or, l'islam investit déjà le champ de l'humain dans sa totalité. Il n'existe pas en l'homme de niveau plus fondamental que la religion, un niveau de simple humanité, si l'on veut. Le caractère inné de la religion n'est pas celui d'une orientation naturelle sur Dieu, du désir d'une anima qui serait naturalitaire, ce que l'on voudra. C'est la présence effective, dès le début de l'histoire, et même avant celle-ci, selon un verset que je n'ai pas cité, mais qui se trouve qui est le verset 172 de la 7e sourate, la présence dès le début de l'histoire et même avant celui-ci, celui-ci, de la religion originelle, ressurgit après des siècles d'occultation grâce au rappel lancé par Mahomet. L'identité entre l'État et la loi est supposée avoir été réalisée dans la période initiale à Médine. Il est intéressant que le nom pris par cette ville ait été justement Madina, au sens de cité ou de capitale. Ce nom de lieu, pour employer le terme technique de la grammaire arabe, désignant très exactement l'endroit où le jugement din est rendu. Depuis lors, cette identité entre l'État et la loi n'a jamais existé ailleurs que dans les rêves des juristes, guère plus que l'idéal byzantin de la symphonia ou la théorie papale des deux glaives. Les gouvernements dont l'histoire nous rapporte les agissements se conduisaient selon des maximes de prudence qu'ils trouvaient formulées dans des miroirs des princes dus à des auteurs grecs, persans ou indiens. Un gentleman's agreement réglait les rapports des gouvernants avec les gens de religion. Il les honorait des lèvres et ceux-ci fermaient les yeux sur les écarts des puissants par rapport à la loi dont ils donnaient des versions, par ailleurs, de plus en plus raffinées et de moins en moins applicables. Or, couper la main du voleur, s'il continue, lui couper la seconde main. S'il continue encore, lui couper un pied, puis le deuxième pied. Bon. Lorsqu'on n'a plus de main du tout, voler devient quand même assez problématique. Bon, eh bien, c'est le genre de choses auxquelles s'amusaient les juristes médiévaux, un petit peu comme les théologiens du nominalisme tardif se demandaient s'il fallait obéir à Dieu si celui-ci nous commandait de lui désobéir. Ça a le même rapport avec la réalité concrète dans les deux cas. C'est peut-être ici que quelques mots sur le terme « calife » pourraient trouver leur place. Le mot dans le Coran ne signifie pas « représentant de Dieu », ce qui serait une monstruosité par rapport à l'idéal islamique d'une immédiateté de la créature à son créateur. La formule « calife de Dieu » n'apparaît jamais dans le livre, à l'encontre du message fondamental duquel elle irait. Cette formule signifie encore moins « successeur de Dieu », ce qui serait alors là pur blasphème, mais les gouvernements réels qui se sont targués du titre de calife ont évidemment revendiqué cette fonction représentative à travers d'autres métaphores comme « ombre de Dieu », la formule originelle du Coran signifiant, selon toute vraisemblance, que les hommes vont être les successeurs des anges, d'où la réaction fort négative des anges lorsque Dieu leur annonce qu'il va créer sur terre un calife. En conclusion, devant le problème posé par la coexistence de la religion et de la politique en islam, ma réponse serait que la situation est à la fois meilleure et pire qu'on ne le pense quand on répète que les deux y seraient simplement confondus. La situation est meilleure dans la mesure où rien dans les sources ne se prononce nettement en faveur d'une forme déterminée de régime. En particulier, si l'on considère que notre chère démocratie représentative est le moins mauvais régime, rien ne permet de la croire impossible en terre islamique. Mais la situation est pire dans la mesure où la revendication d'un monopole divin d'édiction des normes englobe la totalité des dimensions de la vie humaine, vie humaine dont la politique ne représente qu'un cas particulier, certes important, voire décisif, mais non unique. Eh bien, je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup. Je donne la parole à Bernard Bourgeois.
Merci, Madame la Présidente. Je voudrais évoquer, pardonnez-moi, une fois de plus, de toujours emprunter les mêmes ornières, un mot à Hegel, qui dit que Mahomet et Robespierre, c'est la même chose. Car l'un et l'autre ont érigé le terrorisme en politique. Cela pour la raison suivante. Ils ont affirmé l'un de façon absolue. L'un absolu ne peut tolérer la moindre différence, même parfois lorsqu'il la crée, la différence. Qui doit réintégrer absolument en sa substance. Pensez-vous que le terrorisme soit lié de façon essentielle à l'islamisme? Merci, madame.
Merci, Alain Besançon.
Cette intervention est vraiment très très bien. Je voulais te demander si la notion d'évidence n'est pas très importante en islam. Parce que quand même, dans le monde juif et chrétien, les choses ne sont pas évidentes. Tandis que dans le monde musulman, on a l'impression qu'on cède non seulement à la force, mais à cette force, à la force de la vérité, à la force de l'évidence. Et si on ne cède pas à la force de l'évidence, on sort de l'humanité. On est un peu fou. Alors si on est dhimmi, si on est juif, chrétien, zoroastrien et sabéen, la force de la vérité est voilée par ces révélations qui sont tordues, enfin qui ont été falsifiées et que sur lesquelles le Coran met la dernière main et le sceau de l'évidence, le sceau de la prophétie. Et alors si on est un simple païen, hein, alors là on est un peu sorti de l'humanité. On a perdu le sens de la vérité, de l'évidence, et on est fou. Voilà.
Merci. Alors, j'aurais voulu prolonger juste une minute la question de Bernard Bourgeois. Est-ce que tu penses que l'expression totalitarisme vert est quelque chose d'excessif qu'il ne faudrait pas employer, même si on peut penser, comme vous le disiez, que il y a une identité radicale quand même entre la morale et la loi, et ça c'est quand même du totalitarisme. Mais est-ce que tu penses que c'est excessif? Et puis il y a une autre question, à propos de quelque chose de précis. J'ai entendu parler par les hebdomadaires récemment, mais on sait bien que les hebdomadaires, pardonnez-moi, disent souvent n'importe quoi, d'un livre qui s'appelait « Gestion de la barbarie ». Cet ouvrage, donc j'ai cherché à me le procurer, on disait qu'il était peut-être encore un peu disponible sur Internet, mais quand on cherche à se le procurer sur Internet, on tombe tout de suite sur, ou presque assez facilement finalement, sur des gens qui sont en train de jouer au football avec la tête de leurs ennemis décapités. Je n'ai pas trouvé ce texte, mais je me suis laissé dire qu'il était sur papier, et je l'ai trouvé aux éditions Teki. Donc je l'ai acheté sur Amazon et je l'ai lu ce week-end, où on nous montre, ça s'appelle donc Gestion de la barbarie, on nous montre que nous en sommes aujourd'hui en Occident au stade de l'humiliation-affaiblissement, ça correspond bien avec ce que nous voyons autour de nous d'ailleurs, et que bientôt nous en serons au stade de la gestion de la barbarie. Alors j'aimerais bien savoir ce que tu en penses, si tu penses que ce livre est un canular, parce que c'est très possible. Je veux pas dire quelque chose pour rire, parce que ça fait pas rire du tout, mais un canular au sens où ça pourrait être quelque chose d'inventé, un discours inventé par quelque extrême droite ou quelque chose de ce genre pour faire que nous ayons encore plus peur de quelque chose dont nous n'avons pas à avoir peur. Ça, c'est encore très possible. Ça a été écrit par un collectif. Ça n'a pas le nom d'une personne. J'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Mais est-ce que quelqu'un d'autre voudrait parler? Parce que Casanova. Tout à l'heure, il n'y avait personne d'autre. Donc, alors, monsieur Casanova, allez-y. D'accord.
Oui, j'ai été moi aussi très impressionné par l'intervention de Rémi Brague. Et je voudrais lui poser une question un peu comme si je me plaçais du point de vue historique. Parce que cet été, j'ai lu un texte curieux d'un journaliste anglais de 1782 qui décrit le wahhabisme. Et il le décrit exactement comme on décrit aujourd'hui les islamistes. Les mots sont les mêmes, je publierai le texte, si vous voulez, les mots sont exactement les mêmes. Et donc, on a le sentiment qu'avec le wahhabisme au XVIIIe, le mouvement du Mahdi au Soudan, début du XXe siècle, l'islamisme actuel, Al-Qaïda, etc., il y a dans l'islam une pointe combative à l'égard, disons, du monde occidental. Mais s'il y a ce cycle, est-ce qu'il y a un cycle inverse? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'islam, au contraire, une tendance modérée, assimilationniste, donnant une existence à l'Occident chrétien, etc. Autrement dit, est-ce que nous avons devant nous un phénomène historique avec une seule fluctuation, c'est-à-dire pacification-violence, ou est-ce qu'il y a un entrecroisement de deux cycles? Un
de rapprochement, disons, et l'autre d'hostilité.
Merci. Je crois que Monsieur Le Villain voulait parler. Et puis
après, puis je crois qu'il y a plus personne. Oui, cher Rémi, j'ai écouté avec passion cet exposé si bien nourri et prononcé. Donc, Alain Besançon t'a posé la question de l'évidence. Et moi, je voudrais te poser la question de la différence. Parce que si mes souvenirs sont exacts, ils datent un peu maintenant, dans un livre que tu connais, à savoir Kosellek, il explique que Oi Barbaroi, c'était les étrangers. Or, l'étranger, c'est forcément quelqu'un qui est à une frontière. Donc, on est aujourd'hui dans une notion de frontière très compliquée. Donc, l'islam est devenu la non-frontière, puisque par définition, maintenant, il réclame, si j'ose dire, l'extension permanente de ce qu'est la loi, dont tu as très bien analysé les éléments. Dans un livre assez beau et ignoré maintenant, de Jean Guiton, qui était membre de cette institution aussi, de cette académie, fait une grande distinction entre la loi et la grâce. La loi, dit-il, c'est le judaïsme, la grâce, c'est saint Paul. Pourquoi, c'est la thèse de Jean Guiton que je résume, peut-être que je la résume à tort, mais en tout cas, il me semble avoir comprise. Bon. Pourquoi y a-t-il aucune grâce dans l'islam? Et pourquoi y a-t-il une loi qui est une loi qui doit s'appliquer fondamentalement, d'où le fondamentalisme. Ce sont des questions que je pose à mon interlocuteur, qui est un ami, face à mon ignorance, qui est immense, et à laquelle tu vas naturellement répondre immédiatement. Merci.
Merci. Gilbert Guillaume.
Oui, moi aussi j'ai écouté cet exposé avec un très vif intérêt. Finalement, vous nous avez dit que l'islam était plus juridique que théologique. Et je le crois bien volontiers. Ceci étant dit, les juristes sont des gens qui sont des spécialistes de l'interprétation. Ils adorent ça. C'est la manière pour eux de faire preuve d'imagination, c'est d'interpréter, n'est-ce pas? Alors, vous nous avez dit que l'interprétation dans l'islam était différente de ce qu'elle était chez nous, en prenant l'exemple du voile. Je me demande quand même s'il n'y a pas eu dans l'histoire de l'islam des tendances interprétatives nombreuses, dans l'interprétation même du Coran, dans le fait qu'il y ait, par exemple, je crois, des versets abrogés, dans, par exemple, le fait que des interprétations, des écoles juridiques différentes se sont manifestées, oui, comme vous l'avez dit. En autre terme, est-ce que ce refus d'interprétation est vraiment général ou s'il n'y a pas des tendances au sein de l'islam acceptant l'interprétation? Et dans ce cas, qui est le maître de l'interprétation? Est-ce que c'est chacun ou est-ce que, comme dans le chiisme, il y a des interprétations, je dirais, plus authentiques que dans le sunnisme? Enfin, etc. Comment est-ce que l'interprétation joue dans une loi qui ne peut pas éviter l'interprétation par définition même de ce qu'est la loi? Je vous remercie.
Merci. André Vacheron.
Merci, Madame le Président. Oui, dans votre remarquable exposé, cher Rémi Brague, vous avez souligné le caractère impérieux de l'islam qui exige la soumission, en l'imposant si besoin par la terreur, la soumission de l'homme à la loi. Or, il y a eu en 1981 une déclaration islamique universelle des droits de l'homme qui a été proclamée à Paris par Salem Azam, qui était secrétaire général du Conseil islamique, et dans lequel Salem Azam affirmait le droit de tout être humain à la vie, à la liberté, à la protection contre l'abus de pouvoir et contre la terreur, et à la liberté de croyance, de pensée et même de liberté religieuse. Et je voudrais savoir comment vous pouvez interpréter cette divergence entre la loi islamique fondamentale et cette déclaration islamique universelle des droits de l'homme de 81. Merci.
Maintenant, Jean-David Lévit.
Merci, Madame le Président, et merci à Rémi Brague de ces éclairages. Moi, ce qui me frappe, c'est l'évolution des sociétés musulmanes, des sociétés arabes. Il se trouve que je reviens de quelques jours en Arabie Saoudite et le royaume wahhabite a l'image, la réputation d'être le plus strict et le plus figé. Or, je suis arrivé à un moment où, pour la première fois, les femmes étaient autorisées à voter et vont voter. Elles peuvent même être élues désormais, donc c'est une évolution fondamentale. Et j'ai été reçu par le gouverneur de la Mecque qui m'a expliqué tous les changements en cours et par l'université de jeunes filles EFAT de Jeddah où ces jeunes femmes manifestaient avec beaucoup de vigueur une vision tout à fait ouverte de la mise en œuvre de la religion. Et donc, par rapport à ce qui a été dit sur le caractère absolument intangible des règles fixées par Mahomet, je suis frappé de voir que même dans le royaume le plus strict, des évolutions lentes mais continues sont en cours. Et j'aimerais avoir l'éclairage de Rémi Brac sur ce sujet. Merci.
Merci. Nous avons encore trois questions. Bertrand Collomb.
Oui, mais merci pour votre communication et ce qui est une démonstration effectivement tout à fait intéressante de cette caractéristique des bases de l'islam et qui va évidemment bien avec la réalité que nous voyons autour de nous. Donc nous n'avons pas de problème à dire, ben oui, c'est pour cela que votre fille est muette. Mais je voudrais poser une question. Supposez que dans un siècle que je ne daterai pas exactement parce que je vais faire du télescopage historique, une académie musulmane siégeante à Bagdad ou ailleurs, se soit penché sur le comportement des chrétiens au moment où ils se massacraient entre eux, entre protestants et catholiques, au moment où ils expulsaient les juifs d'Espagne. Qu'est-ce que cette académie se serait dit ? Est-ce qu'il se serait dit, oui, bien sûr, regardez tel texte de la Bible, ou regardez ce qui a été écrit, etc. Ils auraient un peu plus de mal pour l'Évangile, quand même. Je ne sais pas très bien ce qu'on pourrait trouver dans l'Évangile, mais enfin, bon, dans la Bible, on pourrait trouver. Donc, c'est évident, le christianisme est une religion violente, impérialiste, d'ailleurs, rappelez-vous les croisades, etc. Enfin, bon. Ou bien est-ce que cette académie musulmane dirait, c'est quand même très curieux, ces gens, car leur religion est une religion qui fait la distinction entre le politique et le religieux. C'est une religion qui, normalement, ne devrait pas entraîner ce genre de conséquences. Comment se fait-il que ces chrétiens soient devenus aussi sauvages ? Ça m'intéresserait, même si ça nous sort un tout petit peu de l'islam, que vous me donniez votre sentiment sur cette question.
Merci. Et enfin, Jacques Delarosière.
Moi, je suis peut-être le seul ici, mais j'ai un sentiment de malaise en vous écoutant. Parce que vous expliquez, certes avec beaucoup d'érudition, que en réalité, la violence n'est pas inhérente à l'islam, mais vous avez ajouté que lorsque la loi qui doit être appliquée par les croyants n'est pas appliquée, alors il y a place pour la force. Alors je crois que c'est très bien vu et que vous avez fort bien expliqué ce double aspect, c'est-à-dire la violence n'est pas inhérente, mais elle est un moyen d'appliquer la loi. Et moi, j'en reviens à la base de ce que vous avez dit sur la religion chrétienne. Vous avez dit la religion chrétienne n'est qu'une religion. Et c'est vrai dans l'absolu. Alors, vous avez raison, il y a eu des débordements vers le politique, mais dans la pensée chrétienne, c'est bien ça. Et je pense que une religion comme la religion chrétienne, qui n'est que une religion, comme vous le dites, a une universalité par définition, parce qu'elle s'applique aussi aux gens dont les rites et l'application de la loi sont différentes de celle qui est prônée par le Coran. Alors que l'islam, si je le comprends bien, est nécessairement attaché à ce système juridique. Et comme ce système juridique n'est pas universel, parce que on sait que les systèmes juridiques dépendent en grande partie des conditions historiques et même des conditions environnementales qui entourent les peuples et qui les dominent, alors on se dit la religion islamique ne peut pas être universelle, mais comme elle tend à l'universalité, il faut qu'elle gagne son universalité, je dirais, juridique sur le terrain, par des actions violentes. Et de ce point de vue-là, je pense que elle est évidemment imparfaite par rapport à ce que j'appellerais le modèle chrétien. Merci.
Merci. Voilà, Rémi, à toi la parole pour la réponse, les réponses.
J'en ai compté un peu plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, 11, oui, parfaitement, j'ai tout faux. Bon, je vais essayer de les traiter aussi brièvement que possible. Je les prends dans l'ordre, hein, parce que je manque d'imagination. Donc, à Bernard Bourgeois, je ne me souvenais pas de ce passage de Hegel. Je me suis permis le petit pied de nez en citant cette formule évidemment provocatrice dans le style affreux Jojo, le christianisme comme religion absolue, mais évidemment que j'ai détourné de son sens. Il est intéressant de voir qu'il y a entre Mahomet et Robespierre un chaînon non manquant qui est le passage de Rousseau que j'ai cité. On sait que Robespierre était un grand lecteur de Rousseau. Bien entendu, je ne veux pas dire que ça serait la faute à Rousseau ou la faute à Voltaire, mais il y a cette idée cet idéal d'une indistinction parfaite entre le bien et le pouvoir, la terreur et la vertu, montre dans le système de la terreur, le système terroriste de Robespierre, que dans ce qui en constitue une préfiguration chez Mahomet, l'idée d'un pouvoir au service d'une idée. J'évite peut-être de parler trop vite d'idéologie, puisque le mot a un sens quand même assez précis. Mais l'idée est que le pouvoir doit être au service d'une idée, et une idée en elle-même n'est pas quantifiée. Donc on peut toujours avoir une réalisation plus parfaite de la vertu républicaine ou des commandements demandés par Dieu. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas en particulier de prise en vue des intérêts des gouvernés, ceux-ci doivent se conformer soit à l'idéal républicain, soit à la loi divine. À Alain Besançon, je ferai remarquer qu'effectivement, la notion d'évidence, même si je n'en trouve pas tout de suite là, je trouve pas le terme arabe qui la désigne, joue un rôle tout à fait capital dans l'islam, qui oblige à refuser ce schéma qui a été popularisé par Louis Massignon, qui fait correspondre aux trois religions, à ce que l'on appelle les trois monothéismes, c'est une expression qui me donne des petits boutons, qui fait correspondre aux trois monothéismes les trois vertus théologales. Le judaïsme étant censé être la religion de l'espérance, le christianisme la religion de la charité, et l'islam la religion de la foi. En fait, la foi n'a pas, dans l'islam, enfin pour le musulman un peu au courant de sa religion, n'a pas du tout le même sens que dans le christianisme. Dans le christianisme, la foi est plutôt contre l'évidence. Enfin, en dépit des apparences, bon, on affirme que par un acte de la volonté, bon, qui s'appuie sur des raisons, sur des présomptions en tout cas, mais qui reste un acte de volonté. Dans le cas de l'islam, eh bien, cette évidence ne peut être masquée que par, alors là il y a un concept musulman, que par les passions. C'est parce que l'homme fait trop attention aux intérêts qu'il a en ce bas monde qu'il néglige l'appel à revenir au Dieu unique. Je dis bien à revenir, puisque ce Dieu est censé être donné. J'ai fait allusion un verset tout à fait célèbre du Coran, il est censé être donné en tout homme, avant toute autre instance qui pourrait intervenir et masquer cela. Il s'agit justement de quelque chose qu'il faut masquer parce qu'on le couvre, mais c'est la couche la plus profonde de l'humanité, celle qui correspondrait si l'islam n'était pas un petit peu en délicatesse avec le concept de nature à l'idée d'une religion naturelle de l'humanité. C'est le fameux verset 772 et celui dans lequel il est raconté que Dieu est censé avoir demandé aux descendants d'Adam, miraculeusement tirés de ses reins, euphémisme biblique bien connu, avant la création du monde, et leur avoir demandé « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» La réponse étant bien entendu « Oui ». Enfin, il y a un mot qu'il faudra presque traduire, si je puis revenir à l'argot de mon Malakoff natif, par « Je veux ». Bien sûr. Le Coran en tire une conséquence. Comme ça, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Nous sommes tous, enfin, tous ceux ici qui ne sont pas musulmans, sont des apostats par rapport à cette confession de foi pré-éternelle qui a été faite envers le Dieu unique. C'est ce qui permet, si vous voulez, de comprendre l'importance de la notion de savoir, de science. L'islam est un savoir. Et ce qui l'a précédé s'appelle l'ignorance, en termes techniques. On ne savait pas. Il ne s'agit pas d'une décision, mais d'une information, de l'acceptation, d'une évidence. Bien. Totalitarisme vert. Là, je réponds à Chantal Delsol. Bon, il faudrait, je crois, commencer par désamorcer le mot totalitarisme. Si l'on comprend totalitarisme comme signifiant la revendication de la totalité de l'être humain en toutes ses dimensions, ben on peut dire que, je ne sais pas, le christianisme, par exemple, est totalitaire, puisqu'il a pour but la sanctification de la totalité de l'être humain. On peut dire que le judaïsme est totalitaire, puisqu'il a pour but, là aussi, la sanctification de toutes les dimensions de l'existence, même les plus quotidiennes. Les clochettes qui porteront l'inscription consacrée à Yahvé. On peut dire que le bouddhisme est totalitaire, pour les mêmes raisons. Alors, en ce sens, oui, totalitarisme, si l'on décharge ce mot des connotations tout à fait péjoratives qu'il a d'ailleurs mérité à partir du moment où, je crois que c'est Gentile qui avait formulé ça pour expliquer le tout pour l'État, tout par l'État italien. Alors ce livre, Gestion de la barbarie, j'en ignorais jusqu'à l'existence, donc je ne peux pas du tout... Pardon, si tu veux, mais il n'a pas d'auteur, c'est un collectif, tu dis ? Non ? J'ai bien compris.
C'est un collectif dont j'ai oublié le nom exact, parce que ce sont des noms qui m'échappent, du genre Abdou, je ne sais pas quoi, mais c'est bien, il est bien dit que ce n'est pas... ce n'est pas une personne, ce sont plusieurs personnes qui se cachent derrière ce collectif. On nous explique comment on va conquérir l'Occident.
À voir, à voir. Jean-Claude Casanova, ça m'intéresserait vraiment beaucoup, enfin, je crois que ça sera dans le prochain commentaire, de voir ce texte d'un voyageur anglais. Mais attendez, 1782, ça me semble un petit... C'est avant le pacte de Najd. Hein, c'est pas 1798, le pacte c'est entre la dynastie... Mais Abdelwahab a prêché, évidemment. Il a prêché avant de faire... Donc, 1782 est tout à fait possible. J'aime pas trop qu'on parle d'un islam modéré, parce que ça me semble injurieux envers les musulmans. Ben oui, je veux dire, si l'islam est une bonne chose, il nous en faut une dose de cheval. Hein ? Donc, dire l'islam modéré, ça veut dire que il pourrait être excessif, peut-être il l'est essentiellement. Mais je préférerais un autre vocabulaire. Alors en revanche, ce qui a tout à fait existé, je crois que c'est une réponse que je pourrais faire à plusieurs des questions qui m'ont été posées, c'est que il y a, disons, l'islam qui fait qu'un musulman est musulman, c'est celui que j'ai essayé de décrire. Et puis, il y a la situation réelle des sociétés musulmanes au cours de l'histoire qui ont été ce qu'elles ont été. De même que personne n'aurait l'idée de déduire du sermon sur la montagne la conduite des populations se voulant chrétiennes au cours de l'histoire. La modération, là je reviens dans les vieilles ornières, la modération a été le fait de ceux qui avaient la responsabilité politique des pays musulmans et qui étaient bien obligés, d'abord parce que ce n'étaient pas des brutes et puis ensuite parce qu'ils n'étaient pas idiots non plus, ils ont été bien obligés de tenir compte des réalités. Tout le monde ne suivait pas ce que les hommes de loi auraient souhaité qu'ils fissent. Tout le monde n'était pas musulman. Il y avait des communautés tolérées qui avaient un rôle économique et parfois même un rôle diplomatique très important. Le contact entre l'Empire ottoman, par exemple, et les puissances européennes étaient assurées par des membres des communautés dites protégées, avant tout des Grecs, par exemple. Bernard Lewis, dans son le livre là, The Muslim Discovery of Europe, je ne sais plus comment ils ont traduit ça. Le livre existe en français hein, sur le peut-être tout simplement la découverte, comment l'islam a découvert l'Europe, je crois. C'est un très bon livre fait par un des plus savants orientalistes qui soit. Alors ces deux cycles, j'y verrais plutôt une coexistence, un parallélisme entre les exigences, entre la thèse et l'hypothèse, si vous voulez, pour parler comme Monseigneur Dupanloup. Bien. Alors à Philippe Le Villain, l'islam comme non-frontière, sauf justement que, je ne sais pas si j'ai très très bien compris ce que tu voulais dire, mais l'islam trace justement une frontière très précise entre le monde de l'islam, qu'il appelle le monde pacifié. On se souvient de l'usage du mot pacifié qui a été inventé, je crois, au moment de la répression de la Vendée. Il ne s'agissait pas de massacrer les gens, mais de pacifier la Vendée. Et puis le mot a été ensuite recyclé au moment de la guerre d'Algérie. Le monde de la paix, tout le monde connaît le terme arabe pour cela, puisque c'est le nom de la capitale de la Tanzanie, Dar es Salaam. Le monde de la paix s'oppose au monde de la guerre. Le monde de la guerre étant les pays non islamisés. Frontière a évidemment été estompée, ne serait-ce que par la présence volontaire de musulmans en terre non chrétienne, en terre chrétienne, pardon, en terre non musulmane, ce qui est normalement, ce qui est un cas qui n'est pas prévu par les différentes formes de la charia. En principe, un musulman se trouvant sous pouvoir non musulman doit changer de crèmerie et retourner très vite en terre d'islam. Bon, là, on a le cas d'importantes populations venant de pays musulmans et établies pour des raisons économiques en terre non musulmane, ce qui pose des problèmes pas seulement aux pays d'accueil, mais également aux pays émetteurs, si je puis dire, puisque, en tout cas aux juristes des pays émetteurs. La loi et la grâce, bon, il faut déjà, je crois, y aller un peu mollo. En ce qui concerne le stéréotype, la loi c'est l'Ancien Testament ou c'est le judaïsme, la grâce c'est le Nouveau Testament ou c'est le christianisme, je ne parlerai donc que de l'islam, qui a un concept, qui n'a pas un concept de la grâce au sens où il s'agirait de ce qui nous permet, enfin devrait nous permettre, devrait pouvoir nous permettre d'obéir à la loi. D'obéir au commandement de la loi, alors que nous en avons pas envie. Le fait fondamental du christianisme, c'est le soupir de Paul, ce dont je sais que c'est mal, je le fais, et ce dont je sais que j'ai bien, que c'est bien, je le fais pas quand même. Alors pourquoi, comment en sortir? La réponse chrétienne étant d'un côté la miséricorde pour ce que nous avons fait de mal, et puis la grâce qui pourrait peut-être nous donner la béquille permettant à l'avenir de faire le bien. Alors la miséricorde est très présente en islam. Tout musulman pieux commence une action de quelque importance ou même de peu d'importance par au nom d'Allah, alors là il y a deux adjectifs à peu près synonymes qui tous deux signifient miséricordieux. La miséricorde signifiant en islam autre chose que dans le christianisme, dans l'islam, la miséricorde divine consiste de la part de Dieu, disons, à passer l'éponge, à oublier, à ne pas tenir compte de ce qui a été fait, en fait, de péché, à condition, bien entendu, qu'on ne commette pas le péché impardonnable qui est d'associer à Dieu d'associer à Dieu des créatures, donc d'associer à Dieu ce qui n'est pas lui. Le christianisme est, si j'ose dire, un peu plus pessimiste dans la mesure où il pense que le péché est quelque chose qui blesse la volonté de l'homme, qui ne fait pas que le salir, c'est pas une tâche que l'on pourrait retirer d'un coup d'éponge, c'est une blessure qu'il s'agit de guérir de l'intérieur, il s'agit de retourner de l'intérieur une liberté malade, devenue incapable de vouloir le bien qui est pourtant son bien à elle. Et pour arriver à cela, il faut plus qu'un coup d'éponge, il faut monter tout un dispositif, ce que les théologiens appellent l'économie du salut. Donc c'est un peu autre chose. Pour répondre à Gilbert Guillaume, il doit bien rire parfois lorsqu'il entend des gens dire « il y a d'un côté l'islam juridique, alors là, Burke, et puis de l'autre côté l'islam mystique ». Hein, comme si ce qui est juridique était malpropre, enfin ne devait pas être. Bon, le juridique est très bien, c'est très bien. Il n'est pas supérieur au théologique dans l'islam, mais il lui est identique dans la mesure où la révélation islamique, enfin, l'idée de révélation, j'ai employé le mot tout à l'heure en soulignant qu'il était technique, c'est le mot de descente. Hein, le Coran descend, hein, il est parachuté, si je puis dire, d'auprès de Dieu, droppé par l'ange Gabriel, mais il ne nous révèle rien de Dieu. Il ne nous révèle pas l'essence de Dieu, il nous révèle sa volonté, il nous dit ce que Dieu veut. Donc d'une certaine manière, la seule théologie, enfin le seul discours sur Dieu, c'est un discours juridique. Il n'y a pas d'accoutumance aux mœurs divines, pour reprendre une concept chrétien. Alors, il y a de la latitude dans la mesure où il y a... Alors, vous avez fait allusion à deux faits absolument massifs. Il y a d'une part des versets clairs et des versets dits obscurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, mutashabbihun? Les philologues s'étripent pour savoir ce que veut dire exactement ce mot. Est-ce que c'est obscur? Est-ce que c'est douteux? Est-ce que c'est ressemblant à d'autres? L'arabe est bonne fille et peut se prêter à toutes les compréhensions. En tout cas, il y a effectivement des versets clairs, dits clairs, à l'intérieur d'un livre qui s'appelle tout entier le livre clair, Al-Kitab al-Mubin, bon, et puis des versets obscurs. Alors, pour les versets obscurs, bon, ben là, il y a une latitude. Pour les versets clairs, bon, ben, il n'y en a aucune, puisque justement, ils sont clairs. Et puis, il y a aussi, alors, ce fait de l'abrogation qui tient à un verset, qui tient à deux versets. Un verset qui dit que si le livre contenait des contradictions, il ne pourrait pas venir de Dieu. Le fait massif, c'est qu'il fourmille de contradictions. Il faut donc trouver un moyen. C'est un deuxième verset qui le corrige en disant « nous ne faisons oublier un verset, c'est Dieu qui parle, au pluriel de majesté, que en le remplaçant par un meilleur ». Alors, qu'est-ce que c'est que ce meilleur? Ben, les juristes ont dit, c'est le verset postérieur qui, bien entendu, ne supprime pas, n'efface pas le verset antérieur, mais qui met entre parenthèses, qui en suspend le contenu normatif. Donc, quand un verset dit de faire quelque chose, et puis qu'un verset postérieur demande de faire le contraire, ben c'est le contraire qu'il faut faire, le premier étant oublié. Alors, ça donne une certaine latitude, avec alors ce problème épouvantable, qui décide de l'abrogation, qui décide, pardon, de l'interprétation. C'est ce qu'il y a derrière, ce qu'il y avait très probablement, enfin ce sont de meilleurs que moi qui le disent, derrière la fameuse querelle entre les Mu'tazilites et les autres. Les Mu'tazilites disant que le Coran est créé, c'est une créature comme une autre, les autres qui ont gagné la partie disant que le Coran est incréé, d'où quelques problèmes. Enfin, comment peut-il, y a-t-il deux incréés? Enfin bon, alors les Mu'tazilites disaient aux autres, finalement, vous êtes dualistes, hein, vous êtes comme les chrétiens, vous admettez un verbe coéternel à Dieu. Et en fait, le problème était justement de nature juridique, parce que si le Coran est créé, alors il faut l'interpréter. Il est dans le temps et dans l'espace, et il faut une instance pour l'interpréter. Quelle pourrait être donc cette instance? Voyons, cherchons bien. C'est curieux parce que le calife était partisan des Mu'tazilites. La réponse est évidente, c'est parce que c'est lui qui se serait arrogé le pouvoir d'interpréter. Si le Coran est incréé, s'il est éternel, il n'est pas question de l'interpréter au sens que j'ai dit, mais simplement de l'appliquer. Alors pour l'appliquer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des juristes. Or, chose extraordinaire, justement, les juristes étaient tout à fait contre les Mu'tazilites et pour le dogme du Coran incréé. Ce qui existe dans le chiisme, le chiisme a pris une autre solution, il y a un imam infaillible. Alors là, bon, on n'a plus besoin de calife, on a un imam. L'ennui étant que l'imam étant entré en occultation, soit après le 12e selon la religion officielle de l'Iran, soit après le 7e selon les ismaéliens. Dans les deux cas, il faut trouver des substituts à l'imam infaillible. Et alors là encore, on a les hommes de loi, les docteurs de la loi qui se présentent et qui ont formé dans le chiisme, exception dans l'islam, une sorte de clergé, fortement hiérarchisé. Le docteur Vacheron. Alors, cette déclaration islamique des droits de l'homme est un chef-d'œuvre d'ambiguïté, puisque elle dit toujours que l'homme a le droit de faire tout ce qu'il veut dans les limites de la loi. Bon. Ce qui, lorsque vous dites ça dans une langue occidentale, ne mange pas de pain. Mais quand vous regardez le texte arabe, vous apercevez que c'est dans les limites de la charia. Donc, je crois qu'il faut quand même prendre ça avec un petit peu de prudence. Quant à la liberté religieuse, elle peut là aussi recouvrir beaucoup de choses. Cela peut vouloir dire que l'on est libre d'exercer sa religion, donc c'est la liberté de culte, si vous voulez. Mais ce qu'un occidental entend par liberté religieuse, c'est quand même avant tout et surtout la liberté de choisir sa religion, de changer de religion si le cœur nous en dit, voire de n'en avoir aucune. Et ça, c'est quand même beaucoup plus difficile à faire avaler à une déclaration islamique des droits de l'homme. J'ai affaire pour répondre à Jean-David Lévite. Alors, il est clair que je n'ai pas voulu faire de la sociologie, ou de la psychologie, ou de la géographie. On a ce qu'il nous faut ici, en fait, de géographe et de sociologue. Je ne sais pas s'il y a des psychologues parmi nous, d'ailleurs. Il y a Jean Tullard, qui fait partie du club des psychologues des saveurs, mais je ne sais pas si ça s'applique à notre cas. Bon, en tout cas, les sociétés arabes, eh bien, elles sont dans le monde comme il va. Et elles sont obligées de trouver des moyens, de regarder la manière dont Bourguiba avait réussi à contourner le ramadan, qui paralyse un douzième de la vie musulmane chaque année. Eh bien, il avait demandé à un juriste, « Bon, vous me trouvez un moyen de tourner le commandant du ramadan. » Le juriste s'était mis au garde à vous sur le petit doigt sur la couture du pantalon et avait dit, « Ben voilà, l'obligation de jeûne est suspendue en cas de guerre, parce qu'il faut que les soldats puissent manger. Or, nous sommes en guerre contre le sous-développement. Donc, bien. » Alors, les sociétés musulmanes s'arrangent comme elles peuvent. Et j'ai dit tout à l'heure, je le répète, qu'il faut distinguer entre ce que la loi commande et la sagesse des politiques. Il y a eu cette dualité depuis le début. Jamais un calife, sauf dans le rêve rétrospectif, des califes dits bien guidés ne s'est conformé aux indications de ce que la charia, qui d'ailleurs n'existait pas encore à leur époque sous sa forme complète, exigeait. Bon, il fallait tenir compte de la réalité. Et donc en rabattre pas mal. Je répondrai un peu dans le même sens à Bertrand Collomb. L'académie musulmane en question n'appartient pas au futur, elle est réelle. C'est le discours musulman actuel. C'est le discours musulman sur le christianisme qui pointe, à juste titre, le contraste, pour ne pas dire l'abîme, qui sépare le discours sur la montagne et le comportement concret des chrétiens dans l'histoire. Alors bon, parler de l'Inquisition, de Galilée et des croisades, pour reprendre la triade habituelle, voilà des choses qui ont été recyclées, elles aussi, dans la propagande islamique, laquelle a d'ailleurs découvert les croisades au XIXe siècle seulement, puisque c'est un petit fait historique assez amusant. Le mot pour croisade a été inventé au XIXe siècle, il n'existait pas de mot. Les gens du Moyen-Orient ne s'étaient pas aperçus de la spécificité et de l'unité du phénomène, puisque les Byzantins, contre lesquels ils étaient en bisbille depuis le début, employaient des mercenaires venant d'Europe. Oui, ils se sont juste dit, tiens, il y a un peu plus de gens qui viennent de Ifrange, qui viennent du pays des Francs, qu'avant. Bon. Et quelqu'un comme Al-Razali, qui est mort en 1111, c'est facile à retenir, ne souffle mot des croisades. Or, la première prise de Jérusalem, c'est 1096, et il habitait juste à côté. Il ne s'est pas aperçu de quelque chose d'absolument nouveau. Et c'est la traduction arabe du livre de Michaud, sur les, d'un historien français donc de bonne qualité, la première histoire des croisades, c'est la traduction arabe qui a remis au goût du jour les croisades. Alors, raisonner à partir du comportement des gens à une religion, je vous recommande la relecture d'un petit livre d'Eli Barnavi, qui a comme passage absolument délicieux un texte sur un bouddhiste zen complètement berserk pendant la guerre russo-japonaise et que les autres non-zen admiraient pour son zèle guerrier. Enfin, quand le canon de ce fusil était trop chaud, ben, il l'urinait dessus pour pouvoir retirer sur des salles russes. Enfin, bon. Alors la question étant de savoir, évidemment, est-ce que c'est vraiment parce qu'il était zen qu'il agissait comme ça ? On peut dire, évidemment, c'est malgré son adhésion à cette forme de bouddhisme qu'il agissait comme ça. Donc attention. Alors dans l'Ancien Testament, on trouve évidemment pas mal de choses. Dans le Nouveau Testament, c'est plus difficile. Lorsqu'un musulman, ça m'est arrivé, fait remarquer qu'il y a de la violence dans le Nouveau Testament, c'est en général à une parabole qu'il l'emprunte. Ils ont du mal à distinguer ce qui est une parabole et ce qui est un commandement. Une parabole, c'est une histoire. Bon, c'est, voilà. Le roi fait ceci, fait cela. À Michel Pébreau, les historiens d'aujourd'hui, y compris un historien tunisien, il est vrai, assez éloigné de l'islam, en tout cas d'un islam rigoriste, qui s'appelle Hichem Jait, et qui a publié dans les années 80, je crois, chez Gallimard, un livre qui s'appelle « La Grande Discorde » et qui est sur une histoire des buts de l'islam, n'hésite pas à parler pour décrire l'État islamique primitif d'un État butin. Un État butin, il s'agissait effectivement d'une entreprise de razzia assez conséquente et dont l'aspect religieux ne semble pas avoir beaucoup motiver les combattants. Je cite quelque part, d'après un article de Dominique Sourdel, d'un islamologue contemporain, je crois qu'il est encore vivant, un texte où un musulman du Xe siècle donne comme argument en faveur de l'islam l'enrichissement prodigieux des conquérants arabes, qui, parti d'une vie de sable et de poux, c'est une expression qui rime en arabe, parti d'une vie de sable et de poux, sont arrivés à devenir de riches latifondistes, en Syrie ou en Irak. Bon. Donc, il ne faut pas négliger ni pousser des cris de vierge effarouchée devant l'aspect très, comment dire, intéressé de ces braves gens. De même que les croisés se sont aussi taillés en Syrie et en Palestine de petits fiefs pour lesquels leur motivation n'était pas uniquement de libérer le tombeau du Christ. Bon. Là, je crois que les choses sont toujours très, très mélangées. À Jacques de la Rosière, je comprends tout à fait son malaise, que je partage. J'ai dit, le christianisme est uniquement une religion. Disons, les formes de socialité, par exemple, produites par le christianisme, l'Église, bon, c'est quand même un fait social. C'est dommage que Jean Béchler ne soit pas là. Tout à fait intéressant, puisque c'est une association fondée sur une croyance, et pas sur un intérêt économique, pas sur des liens de sang, pas sur tout ce qui, d'habitude, constitue une société. Que les systèmes juridiques dépendent des circonstances, les systèmes juridiques concrets, les systèmes juridiques effectivement appliqués, bien sûr. Le problème de l'islam étant qu'il prétend exactement le contraire. Et il prétend que les normes du comportement humain qu'il préconise et auxquelles il donne force de loi viennent d'une instance qui est au-dessus de toute circonstance, qui est éternelle et omnisciente, à savoir Dieu en personne. Dans la réalité, la loi islamique comporte des éléments, on peut le, les historiens du droit peuvent le montrer de manière assez précise, présente des éléments qui sont venus soit du droit romain sous sa forme pérégrine, enfin sous la forme telle qu'il était appliqué au Moyen-Orient. Il y a des éléments qui viennent de dispositions que l'on trouve dans les textes juridiques babyloniens. Enfin, ils ont pris ce qu'il fallait, ce qu'il y avait sur le marché, si je puis dire, dans les pays qui étaient conquis. Mais alors il y a eu cette attribution, évidemment fictive, au prophète. Ça, c'est le travail, c'est la fonction du hadith. C'est d'attribuer au prophète et d'attribuer directement à des déclarations du prophète ce qui se trouvait, si je puis dire, sur le marché aux normes du Moyen-Orient ancien. Ça, c'est Goldseer, mon cher Ignace Goldseer, qui a montré ça. Islamologue hongrois, 1851-1920, qui est une de mes grandes admirations. Voilà, bon, ben, je crois avoir à peu près, j'espère ne m'avoir rien oublié.
Oui, merci beaucoup. Je pense que c'était bien complet. On a pris le temps. Merci beaucoup et à la prochaine fois.